nous recevons tout de suite François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Et nous allons évoquer un sujet ô combien intéressant, important et malheureusement occulte. Il y a très exactement 80 ans, beaucoup d'Espagnols rejoignaient la France à cause de la guerre civile et créaient ce qu'on appelait la retirada, autrement dit la retraite. Notre pays à ce moment-là a accueilli énormément de personnes, plusieurs centaines de milliers. C'est le sujet que nous allons développer avec notre invité. Il s'agit de Patrick Claude. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Au pied du mur, qui s'occupe du patrimoine et du souvenir à Malfougas et à Montlot, dans les Alpes de Haute-Provence. Et vous vous intéressez à cette question de la retirade à tel point que vous organisez une soirée, ce sera le samedi 17 août, à Montlot, pour parler de cette question importante qui a eu un impact dans notre pays, bien évidemment, et plus particulièrement dans notre région, l'exil des Espagnols en 1939. Pourquoi cette motivation chez vous ?
Alors cette motivation vient que j'ai vécu une trentaine d'années dans les Pyrénées-Orientales et j'ai travaillé des deux côtés de la frontière, donc j'ai eu des relations privilégiées avec les Espagnols qui m'ont parlé de ce sujet. Ils n'en parlaient pas à leurs enfants ou à leur épouse ou à leurs petits-enfants, mais moi qui étais, entre guillemets, étranger à la famille, ils m'en parlaient assez souvent.
Quand vous avez, vous êtes un peu plus intéressé à cette question, avec un côté historique, archivique, en quelque, archiviste plutôt, vous êtes plongé en fait dans l'histoire des Alpes de Haute-Provence, des Basses Alpes de l'époque.
Oui, à ma grande surprise, en allant aux archives départementales à Digne, on a trouvé pas mal de documents concernant cette arrivée des Espagnols dans les Basses Alpes, et en particulier des photos de l'arrivée. Les archives départementales des Basses Alpes sont pratiquement les seules archives départementales à avoir un document visuel de l'arrivée des Espagnols dans un département.
C'est un document que nous allons publier sur notre site internet que vous nous avez apporté et qui est révélateur. Il y a environ, il y a plusieurs centaines de personnes, peut-être 300 personnes, devant la gare de Digne, arrivées à un jour très précis. Et évidemment, c'était un flux quasiment ininterrompu pendant quelques jours.
Oui, est arrivé sur Digne en deux dates, le 2 et le 10 février 1939. Plus de 2100 réfugiés, surtout des femmes et des enfants, puisque quand les réfugiés ont franchi la frontière, on les a séparés. On a mis les hommes dans des camps de concentration, tels le camp d'Argelès ou de Saint-Cyprien, et les femmes et les enfants, ne sachant qu'en faire, on les a chargés dans des trains et on les a dispatchés un peu partout en France, et en particulier dans notre département.
On va revenir sur la situation de notre département à cette époque. On va rappeler la guerre civile d'Espagne, 3 ans de conflit interne en Espagne, extrêmement violent, avec aussi des brigades, des légions qui sont venues de part et d'autre, d'ailleurs, aussi bien à l'extrême droite qu'à gauche, pour combattre en Espagne, des Français, des Polonais, des Allemands, etc. On peut dire aussi que Adolf Hitler a tester un petit peu son matériel pendant la guerre d'Espagne pour le résultat que l'on sait et évidemment les années qui ont suivi, qui sont des années dramatiques. Le fascisme s'est installé en Espagne avec le général Franco pendant plusieurs années, évidemment. Et entre-temps, évidemment, plusieurs Espagnols ont fui le pays et à pied, le plus simple, c'était traverser les Pyrénées pour se retrouver en France, un pays qui les a accueillis en improvisant au début, puis après, au fur et à mesure, en les dispatchant, entre guillemets, de manière plus réaliste, un petit peu partout. C'est pour ça qu'on a des Espagnols qui sont arrivés en 1939, donc à la fin de la guerre civile en Espagne, au dénouement, et qui sont installés dans notre pays. Vous avez retrouvé des survivants de cette période, Patrick ?
Alors, je fais quelques interventions dans le département, j'en ai fait une aux archives départementales, et à la fin de ces réunions, il y a des personnes qui ont 40-50 ans, qui sont les descendants de ces Espagnols, qui viennent me dire merci, mais surtout m'indiquer que leur père ou grand-père ne leur ont pas parlé de ce sujet. Ils l'ont découvert, eux, bien des années plus tard, puisque le mot « retirade » a été mis à la mode, entre guillemets, dans les années 90. Avant, on parlait plutôt de l'exode, des réfugiés espagnols, que de la retirade. Et il y a eu quelques sujets, dans les Pyrénées-Orientales, il y a quelques associations très actives, et ils se sont rapprochés de cette association pour avoir des informations sur leurs parents.
On imagine très bien la blessure de ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays pour des raisons politiques, pour des raisons évidemment physiques, puisque certains étaient menacés à cause de leur engagement politique. Et le pays, il faut le dire aussi, la France, à un moment, a renvoyé des réfugiés espagnols.
Oui, sur nos 500 000 réfugiés qui ont passé la frontière en 1939, tout en sachant qu'en 1937-38, 120 000 déjà avaient passé la frontière. On les a accueillis plus ou moins bien, mais on a réussi à les intégrer, vu le nombre. Mais cet afflux de 500 000 a rendu l'accueil très difficile. Et les autorités n'étaient pas préparées à cet afflux massif.
On l'imagine bien, ça, effectivement. Et certains ont été renvoyés en Espagne, mais ça veut dire qu'ils sont condamnés quand ils rentrent en Espagne.
Voilà, certains ont été fortement encouragés à repartir en Espagne. Sur les 500 000, environ 200 000 sont rentrés en Espagne. Et je vous laisse imaginer l'accueil qu'il y a eu dès le passage à la frontière. Ils ont été accueillis par la Guardia Civile, souvent internés, mis en prison et aussi exécutés.
Alors c'est une période trouble, mais en même temps c'est une période très encourageante, parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme, et sans faire de parallèle avec la situation actuelle et les migrants, notamment en Méditerranée, nos ancêtres nous donnent une belle leçon là quand même d'accueil des personnes qui ont tout perdu.
Oui, dans l'ensemble l'accueil a été, on peut pas dire très bien, a été bien, il s'est mis beaucoup d'associations, de collèges, d'écoles, de médecins, d'infirmiers au service de l'arrivée de ces réfugiés. On a des articles de presse, en particulier dans les Basses-Alpes, qui montrent que il y a eu des bénévoles qui sont venus pour aider toutes ces familles.
Vous avez aussi listé village par village les initiatives et voir les quantités de personnes qui ont été accueillies.
Oui, on a à disposition des gens qui le souhaitent la liste par village des Basses-Alpes, le nombre de réfugiés accueillis. Et par exemple, sur la ville de Manosque, il y a eu 108 personnes qui sont arrivées en un seul voyage. Est-ce qu'il reste trace aujourd'hui de ces gens à Manosque? J'en doute beaucoup. Les gens sont là, mais est-ce qu'on en a gardé une trace historique?
Sincèrement, je pense que votre journée à Montlot le 17 août est aussi l'occasion de tendre des perches à ces personnes et de dire venez nous raconter votre histoire.
Venez témoigner, venez nous raconter vos histoires. Si vous avez des documents, des photos, amenez-les, on va les scanner, on vous les rend, mais ça va amener de l'eau au moulin de la retirade.
Alors, vous êtes motivé sur cette affaire, mais vous avez aussi motivé à vos côtés Camille Feller, qui est le maire de Montlot, qui a tout de suite adhéré à votre projet, je suppose.
Oui, la maire de Montlot, Camille, a vraiment adhéré en mettant à notre disposition la salle communale pour pouvoir faire cette soirée et également se réfugier en cas de pluie.
Alors cette soirée, justement, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment une conférence, il y a une animation musicale, des rencontres, et puis il y a un film très particulier.
Oui, il y a un film très particulier. L'Institut Jean Vigo à Perpignan, qui est un institut de conservation de documents cinématographiques, a trouvé dans ses archives un film d'une vingtaine de minutes qui montre le passage au Pertus des réfugiés. Ce film est muet, mais il est très, très, très émouvant.
C'est-à-dire qu'il y a très peu de montage, il y a juste une caméra fixe.
Il y a une caméra fixe.
Et on voit le flux.
Et on voit le flux, et c'est quelque chose qui va marquer les gens à la vision de ce film.
On peut imaginer effectivement.
Parce qu'ils peuvent peut-être reconnaître, il y a un tel flux de personnes qui passent, qui peuvent peut-être reconnaître un de leurs parents, grands-parents, dans ce film.
Et en tout cas, ils auront une illustration de ce que leurs grands-parents ou parents ont vécu à cette période-là. Période trouble pour l'Espagne, évidemment, et puis période trouble à venir aussi pour la France et toute l'Europe, voire le monde entier, puisque la Seconde Guerre mondiale est là, avec des personnalités qu'on va retrouver sur la scène internationale, et notamment un certain Philippe Pétain.
Oui, Philippe Pétain a toujours eu une vue ambiguë des rapports avec l'Espagne. En 1924, le général Franco était en train de prendre une défaite au Maroc. Et c'est Philippe Pétain qui est venu lui porter aide, une aide militaire, et l'a sauvé de cette catastrophe. Et il va rester entre deux une amitié très 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 profonde. Et d'ailleurs, le premier ambassadeur du gouvernement Daladier, on est encore en République en France, on n'est pas sous le gouvernement de Vichy, nommé à Madrid, c'est Philippe Pétain. Donc, et puis la France, sous Philippe Pétain, recevra Franco à Montpellier, en grande pompe. Dans les documents de l'INA, il y a le film de cette réception sur Montpellier.
Donc un personnage qui s'est bâti aussi quelque part avec la guerre civile d'Espagne. Aujourd'hui, vous disiez que vous avez vécu assez longtemps à la frontière espagnole. Le pays est encore marqué par cette abomination que fut la guerre civile.
Oui, toute la région pyrénéenne est encore marquée par ces passages, puisque il y a un très bon musée de la retirade à la Jonquière. Il y a une association qui s'appelle FRI à Argelès-sur-Mer qui est très active. Il y a un mémorial au camp de Rivesaltes. Donc il y a plein de lieux de mémoire et de recueillement. Et puis aussi il y a quelque chose d'assez fantastique entre guillemets. Le poète espagnol Machado est passé par la frontière de Cerbère. Il arrive à Collioure et il meurt quelques mois après son arrivée. Il est enterré aujourd'hui au cimetière de Collioure, et au cimetière de Collioure, sur sa tombe, il y a une boîte à lettres auquel le facteur porte toujours des poèmes écrits par les fils et petits-fils de réfugiés, et il y a une association qui s'occupe de conserver ses poèmes de Machado.
Et on peut signaler aussi que la tombe justement de Machado, c'est Pablo Casals, l'immense violoncelliste, qui l'a fait ériger à Collioure en hommage à ce grand poète qui était Machado. Donc on sent que l'intelligentsia espagnole a été blessée aussi lors de la guerre civile et de la suite. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont d'origine espagnole et ont gardé une attache avec ce pays magnifique qu'est l'Espagne. On a des gens qui ont vécu cette période, puis d'autres qui sont venus plus tard ou avant. Donc c'était le cas par exemple de Pablo Casals, qui était déjà en France à cette époque, me semble-t-il. Et puis il y a d'autres personnes, dont des gens très connus, hein. Il y a Manuel Valls par exemple, qui est venu après la guerre civile, Anne Hidalgo, Jean Reno, enfin beaucoup de personnes et de people et de personnalités importantes. On a des liens très particuliers avec l'Espagne, oui. Mais cette soirée que vous allez faire, elle est spéciale, puisque on va fouiller dans le passé, et en fouillant dans ce passé, vous, Patrick Claude, vous avez retrouvé des articles de presse où, par exemple, des journalistes ou plutôt des associations d'accueil, j'aime pas ce mot dans ce cadre-là, s'élèvent contre la présence de ces Espagnols. Et il y en a un qui pourrait faire sourire, mais qui est dramatique, qui concerne Anote, la ville d'Anote, où un rédacteur demande à ce que les jeunes femmes espagnoles, qui sont très affriolantes, paraît-il, restent dans leur camp parce qu'elles affolent les jeunes anotins. Ça aussi, c'est toute une période.
Oui, oui, on a un article du 20 avril 1939, donc 2 mois après l'arrivée. On permet aux Espagnols de sortir un peu dans le village, mais de suite, les protestations s'élèvent devant cette attitude de la municipalité de laisser sortir les jeunes filles des centres où elles sont enfermées, parce que ça perturbe fortement les jeunes garçons du village d'Anote.
Oui, en plus de ça, c'est un manque de respect pour les jeunes garçons qui seraient absolument incapables de pouvoir réfréner je ne sais quelle pulsion. Donc c'est vraiment, on a là l'exemple du réactionnaire dans sa pire... Pire expression, quoi.
Oui, autant on a des articles fantastiques, autant il y a certains articles qui sont abjects.
Il faut regarder ça comme ça, abject. Il faut regarder cette réalité.
Oui, oui.
De dire, ça n'a pas été si facile, quoi.
Donc, je lis deux mots parus sur un journal de Digne qui dit « Ils arrivent l'injure à la bouche, la maladie et la vermine dans la peau ». Donc, on ne peut pas faire plus abject comme...
Et en plus, en faisant référence à la grippe espagnole, qui était un virus, autre chose, et donc de comparer ces situations épidémiologiques avec autre chose, enfin, c'est vraiment, vraiment spécifique, et c'est pas la gloire des journalistes de notre département. Cela étant, quand même, la majorité du département a accueilli ces personnes à bras ouverts et on peut s'en féliciter. Cette soirée que vous organisez, c'est à Montlot le 17 août. Il y a également un repas et il faut absolument réserver pour le repas, Patrick.
Oui, donc à la suite de la projection du film et du débat, on organise un repas dans le village, bien entendu. Ne pas être là.
Évidemment, ça s'impose.
On ne pouvait pas faire autrement.
Il vaut mieux ça qu'une choucroute. Hein.
Voilà, qu'une choucroute. Et j'ai un groupe de Perpignan qui vient aussi bénévolement
faire de l'animation
avec beaucoup de musique espagnole.
Donc ça se comprend, et bien sûr, et puis c'est surtout l'occasion de pouvoir croiser des personnes, des pratiques, et puis évidemment des trajectoires particulières. Il faut réserver pour le repas ?
Oui, il faut réserver un numéro de téléphone qu'on va vous donner.
Et alors, je vais vous le donner, le numéro de téléphone, je l'ai sous les yeux, 07 50 40 87 90, 07 50 40 87 90. Il faut réserver avant le 10 août, donc avant samedi, et évidemment, ça se passe la semaine suivante, le samedi 17 août. Montlot se penche sur la retirade, l'exil des Espagnols en 1939, et c'est une initiative de Montlot et également de l'association Au pied du mur. Merci encore, Patrick Claude, d'avoir levé le voile. Je trouve que notre pays est assez discret sur cette retirade parce qu'elle a eu un impact très important sur notre pays et on en parle rarement. Donc bravo pour cette initiative et j'espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'effets et que ça n'est que le début d'une certaine aventure.
Merci à vous pour cet accueil et j'espère que la fête de Montlot sera une belle fête.